Une bonne semaine à vous tous, Be'ezrat Hashem et Birkat Hashem al Kulanu, un bon Rosh Chodesh pour demain, Rosh Chodesh Shvat. Voilà, nous sommes donc dans la suite de notre étude. Nous avons commencé à mettre en place les 10 Sfirot. Nous avons commencé par le Keter, qui est la sphère d'en haut, la plus haute, qui représente en fait la centralité et la racine même de tout. Nous sommes dans la Chochma. La Chochma se trouve à droite, c'est-à-dire qu'elle est dans un mouvement de don. Je vous rappelle que lorsque nous parlons de droite et de gauche, dans la Kabbalah, la droite représente le partage, la gauche représente la réception. Donc, étant donné que la véritable sphère du début, je vais dire en hébreu, le premier existant, là voilà, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle le premier Yesh. Eh bien, ça s'appelle la Chochma. Pour nous indiquer que le but de tout, c'est de partager. Donc, le premier degré est à droite, il partage. La couronne, le Keter qu'on a mentionné tout à l'heure, il est tellement élevé qu'il est au-dessus. Donc, il n'est pas réellement dans notre monde, il est comme la couronne qui est sur la tête du roi, mais elle ne fait pas partie de la tête du roi. Et donc, on ne la prend pas en compte, on va prendre en compte la sphère qui est juste en dessous, regardez bien, c'est-à-dire le Da'at, qui va être, elle aussi, au centre, comme le Keter, mais sous la Chochma et la Bina. Donc, la Chochma, on commence par la Chochma. La Chochma, c'est la première évolution de notre monde, comme nous le disons dans la prière, « Kulam bechochma asita ». C'est avec la Chochma qu'Akadosh Baruch Hu a tout fait. Donc, la Chochma, c'est la première action divine. Étant donné qu'elle est à droite, elle indique qu'il y a un désir de partager. Donc, Akadosh Baruch Hu a une identité infinie dont le principe de base est le partage. Et c'est pourquoi toutes les sphères qui se retrouveront du côté droit vont réindiquer ce partage, alors que toutes les sphères qui sont à gauche vont indiquer la réception, parce qu'il ne faut pas seulement donner, il faut aussi se soucier que quelqu'un reçoive. Donc, on va considérer que les sphères de droite sont masculines et les sphères de gauche féminines. Le masculin a pour qualité de donner, c'est comme ça qu'il devrait être, et le côté féminin a pour qualité le savoir recevoir. Toutes les sphères du milieu, c'est la résultante comme la synthèse entre la droite et la gauche de leur étage. Vous voyez donc, il y a toujours des triangles, il y a thèse, antithèse et synthèse. La thèse, c'est le partage, l'antithèse, c'est les mesures qui permettent de recevoir, et la synthèse, c'est la sphère centrale qui est la résultante des deux. Donc nous sommes dans la Chochma se trouve à droite, donc c'est déjà une pensée qui a une direction, même si cette direction est encore générale. Tout le savoir, toutes les connaissances sont à l'intérieur de cette sphère de Chochma. Si vous écrivez Chochma différemment, vous pouvez écrire Koach Ma. C'est la force même de l'homme. Ma est égal 45, la même valeur numérique que Adam. Ça veut dire que la sagesse, c'est la force koach du 45, même 40 et 5. Donc ma. Donc la sagesse, c'est aussi toute la puissance de l'homme. Adam est en valeur numérique 45, exactement comme la valeur numérique de Geoula. Ça veut dire que toute la Géoula dépend de ce dévoilement de la Chochma. C'est lorsque la Chochma se dévoilera dans le monde, la sagesse divine, que la Géoula apparaîtra pleinement. Donc tout ceci, en réalité, c'est pour nous dire que la sagesse est du côté droit, c'est la pensée avec des lignes générales qui contient toutes les connaissances beprinat klal hamechil kol apratim. Donc c'est un tout qui précède les détails de ce tout. Encore une fois, dans le judaïsme, on ne dit pas que les détails forment un tout, c'est exactement l'inverse. C'est le tout qui contient tous les détails. C'est-à-dire que le tout est bien plus élevé que la somme des détails. On ne peut pas rassembler des détails pour former un tout, ça ne veut rien dire. On ne peut pas assembler des rayons de soleil pour faire un soleil, ça ne veut rien dire. C'est le soleil qui rayonne. Donc à la limite, les rayons n'existent même pas. Eh bien, c'est exactement la même chose. Les détails, on ne peut pas les rassembler pour fabriquer quelque chose. La chose en question est bien avant les détails. Et c'est la chose en question qui se met en détail. Donc le klal précède tous les pratim, tous les détails de notre monde, de notre vie. Et nous passons à la bina. La bina se trouve exactement du côté gauche de la chokhma. Je reviens au sphirot, voilà, la chokhma est là, la bina juste en face. Donc c'est la femelle de la bina, de la chokhma, pardon. Donc la bina est la femelle, le côté féminin de la chokhma. Chokhma et bina, c'est en réalité donc les deux premières lettres du nom d'Hachem. C'est-à-dire que la chokhma, je vais l'écrire par un yud, et la bina, je vais l'écrire par un he. Voici les deux premières lettres du nom d'Hachem, c'est chokhma et bina. Donc la bina, elle se trouve à gauche. On a dit que tout ce qui se trouve à gauche, c'est la qualité de réceptacle, de réception, donc de côté féminin. Finalement, la bina, c'est celle qui va recevoir l'information émise par la chokhma. Donc, matrila lenater, là-bas on commence à disséquer, à mettre en mesure, faire des tzimtzumim. C'est le côté féminin. Le côté féminin a la capacité de prendre quelque chose et de commencer à lui donner une forme, un volume. Vous vous rappelez, je vous ai dessiné un cube. Ça, c'est la bina. Donc, ça va commencer à mettre en détail et commencer à formuler tous les klalim, les conceptions générales, pour pouvoir les mettre en condition de réalisation. OK ? Sans le côté féminin, point de réalisation. Même quand on dit que Dieu a fait le monde avec la chokhma, c'est parce que cette chokhma est passée par la bina que le monde a pu être créé. Si la chokhma n'était pas venue par la bina, c'est comme le papa qui ne peut pas accoucher d'un enfant. Même si cet enfant existe en potentiel dans le cerveau du père, tant que cette goutte de semence n'est pas passée chez la maman, il n'y a pas de bébé. Mais c'est la même chose, le monde est sorti d'un ventre féminin. Et donc c'est ce qu'on appelle la bina. Ben shtei ha-sfirot, donc entre les deux sphères maintenant, chokhma et bina, omedet ha-da'at, il y a la troisième sphère. Vous vous rappelez, on a pris le da'at. Je reviens dans mon schéma, c'est celle-ci. D'accord ? Donc le da'at, quelle est sa fonction ? Be'emtsa ben shloshtam nir'et siyur segol. Donc je viens de dessiner un segol, c'est-à-dire un triangle formé de ces trois sphères. C'est ce qu'on appelle un segol. Rappelez-vous qu'au début, il y avait Keter Chokhma Bina, c'est un Sgolta, c'est l'inverse d'un Segol. Et maintenant, nous prenons Chokhma Bina et Da'at, ça c'est un Segol. On appelle ça, dans le langage courant, Chabad. Chabad, ce n'est pas des Lubavitch, c'est Chokhma Bina et Da'at. Les gens qui ne savent pas, ils ont l'impression que c'est un nom codé. Non, c'est justement Chokhma Bina et Da'at. Ceux qui étudient la Chokhma, la Bina et le Da'at, ont ce qu'on appelle Chabad. Donc, ce da'at, quelle est sa fonction? La troisième sphère, donc, entre la chokhma et la bina. Da'at hi midat ha'issoum, c'est là où on va commencer à réaliser les choses. On appelle ça la connaissance. Donc, la connexion et la connaissance, dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire un rapport intime qui va féconder. Donc, ce qu'on appelle da'at. Lorsque la Torah m'ordonne à la sortie d'Égypte, ve'ya da'ata et Hashem Elohecha, da' et Hashem Elohecha ve'avdehu, c'est pas de connaître le nom d'Hashem, c'est de se relier à lui intimement, profondément, comme si nous avions un rapport intime, à tel point que je vais être fécondé par cette connaissance entre Dieu et moi. Et donc, je vais accoucher comme une femme enceinte qui va accoucher finalement. Alors, au lieu d'accoucher un bébé, je vais accoucher des notions de Torah. Je vais réaliser des secrets de Torah qui vont sortir de ma bouche. Ma bouche va jouer donc le rôle du ventre, de la maman, de la matrice, qui va engendrer des mots. J'espère que vous êtes avec moi. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le da'at. Donc, le da'at est intimement lié à la parole. D'accord ? On peut savoir si quelqu'un a suffisamment de da'at en lui par la manière qu'il a de véhiculer en parole sa pensée. De véhiculer sa pensée sous forme de parole. C'est ce qu'on appelle le da'at. Donc, c'est la chokhma et la bina réunies par le verbe. Ha'da'at ma'avira et maskanot ha'chokhma ve'abina. Donc, toutes les conclusions entre la chokhma et la bina, eh bien, le da'at va les faire passer vers le bas, vers les sphirot du bas. Bien entendu, elle ne peut pas court-circuiter toutes les sphirot parce qu'elle est là. Elle ne peut pas court-circuiter tout ça pour arriver directement à la Malchut. Alors, elle va utiliser justement ces six sphères qu'on va maintenant énumérer. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Tout ça, ce sont six points, donc je vais les remplacer par une lettre hébraïque, la lettre 6, donc la lettre Vav. Donc, je remonte, et là, après la Chochma et la Bina, j'ai en réalité maintenant une nouvelle lettre, le Vav. Vous êtes avec moi? Je suis en train d'écrire le nom d'Hachem. Et la dernière Spira, qui s'appelle la Malchut, eh bien, c'est la dernière lettre. Donc, je viens d'écrire Yudke Vavke, le tétragramme, tout simplement en énumérant les 10 Sphirot. Je répète, Chochma, Yud, Bina, He, les 6 sphères que le Da'at va emprunter pour arriver à la Malchut. C'est clair? Ok. Ba'Da'at, donc, dans cette sphère de Da'at, qui est pour nous maintenant la lettre qui va véhiculer, c'est pour ça que la lettre Vav, c'est la lettre des liens entre toi et moi, entre moi et vous. On dit V. Ani V. Ata. Donc la lettre Vav va servir de véhicule pour faire glisser la volonté initiale du Créateur. Donc, c'est à travers le da'at, Zorem et Amegama Nishmatit, qui va commencer à circuler le but même de la Neshama de ce monde, de notre existence. Chaïta Gnouza Bashoresha Elion, qui elle était déjà dans la racine première. Donc le monde doit surtout acquérir du da'at. Ata chronen le adam da'at. Umelamed le enosh bina. וכוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, ובהשכל. ברוך אתה, השם כונן הדעת. ספר très importante pour faire le lien, pour faire les connexions. והיא בעצם כמו הכתר, donc le דעת, c'est comme la couronne, rappelez-vous, elles sont placées au centre, la couronne, elle est là, et le דעת est là. Seulement, comme je compte maintenant le דעת, eh bien, cette couronne, je l'enlève de notre jeu. Et là, j'ai 10 sphères. Si je mets et le keter et le date, il y a un problème. J'ai 11 sphères. Donc, les chachamim nous disent, quand tu comptes le date, tu ne comptes plus le keter. Ce n'est pas juste un jeu de points. C'est tout simplement parce que le keter, lui, se soucie des valeurs supérieures. Et ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est le date qui va faire descendre la Chochma et la Bina dans l'existence d'en bas. Donc, on va prendre en considération justement le date. Donc, ce qui nous intéresse dans la Kabbalah, c'est comment faire descendre la lumière. Donc, finalement, comment la recevoir. Donc, Kabbalah, les Kabel. Je reprends notre développement. Donc, le date, c'est ce qu'on appelle le réalisateur de la Chochma et de la Bina. Donc tout va circuler à travers le Da'at. Elle est comme le Keter, et là seulement, le Keter s'occupe, se préoccupe de ce qu'il y a au-dessus de lui, alors que le Da'at se préoccupe de ce qu'il va donner vers les mondes d'en bas, y compris le nôtre. Donc, Ve'a Da'at, Do'eget, et ce souci, la Da'at, les kolma she'acharea, tout ce qui viendra après elle, les tzorech gilui ha-megama lemata, pour dévoiler tout le but de la création en bas, dans notre monde. Je pense que c'est clair. Anhaga matrila befoal, maintenant, tout ça c'était à la limite encore potentiel. Le véritable degré de réalisation de ce potentiel va commencer maintenant par les 6 sphères que j'ai énumérées tout à l'heure, dont la première est le chesed. Donc on peut considérer qu'il y a ici comme une séparation entre les 3 premières sphères et les 7 sphères inférieures. Les 7 sphères inférieures, ce sont les sphères de la réalisation. Les 3 sphères supérieures sont les sphères de la pensée. Vous voyez qu'à la sortie d'Égypte, il y a 2 parachiotes. On a séparé volontairement les 7 premières plaies des 3 dernières plaies. On va lire seulement Shabbat prochain. Donc là, on a lu ce Shabbat les plaies qui correspondent à ces 7 points, du bas vers le haut, Dam, Sfardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Arbe. Et là, on va avoir Rocher, Ken, Arbe, pardon, Arov, Dam, Sfardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Barad. Et là, on va commencer la semaine prochaine, Arbe, Chosher, Makat Bechorot. C'est-à-dire que Dieu frappe l'Égypte du bas vers le haut. S'il l'a frappé du haut vers le bas, eh bien, à la première plaie, on serait sorti d'Égypte. Donc, Dieu va commencer par le bas. Et donc, nous sommes maintenant dans ces 7 degrés d'en bas, dont la première est le chesed. Chesed, c'est l'amour, le partage. Et comme il est dit dans le verset, « Amarti olam chesed ibane ». David Amelech nous enseigne que le monde commence par la sphère de chesed. Encore une fois, une sphère qui est à droite, car le but d'Akadosh Baruch Hu est de donner, de partager. C'est un donneur. Donc la première sphère, c'est le chesed. C'est bizarre, j'ai rêvé cette nuit que le mot « love », en anglais, l'amour, vient de la racine « le'ehov », en hébreu, aimer, « love », le'ehov. C'est la même racine. Ça veut dire que le monde commence par l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas continuer dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est le désir de partager. C'est ça la véritable force intérieure de l'amour. Ce n'est pas aimer l'autre pour toi-même. C'est vouloir lui donner. Ça, c'est l'amour de Dieu pour sa création. Donc Dieu aime sa création. Donc la première sphira qui correspond à la réalisation de sa création, de son vouloir, c'est le chesed. Ok, alors on arrive. Donc à Anhaga, la conduite commence de facto befoal besfirat ha-chesed, avec la sphère du chesed. Shehi ha-rosh le-sheva ha-sphirot ha-tachtonot, qui est donc la première, c'est la tête des sept sphères inférieures, qui représentent quoi? Ha-mevat-ot et Anhaga befoal, qui correspondent au leadership, c'est-à-dire à la conduite de ce monde d'une manière réelle. Et Gufa Anhaga, le corps même de la conduite divine de ce monde. Donc nous avions dans les trois premières sphères la pensée de la conduite, et dans les sept dernières sphères, dont la première c'est le chesed, la conduite de facto. Midat ha-chesed, donc on appelle c'est déjà une mida, c'est la première des midot. Petit degré, la chokhma, la bina et le dat ne s'appellent pas des midot. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement grandes qu'on ne peut pas les mettre en limite. Mida veut dire limiter, mesure. On ne peut pas les mesurer. Donc les premières midot, la première commence par le chesed. Finalement, en réalité, il n'y a que sept midot. Alors que les trois premières, ça s'appelle des mochin, des cerveaux. Donc il y a trois mochin et sept midot, dont la première est le chesed. Okay. Je suis en train d'inventer une façon d'expliquer, je reviens et j'avance, pour que ça rentre bien. D'accord ? Donc le chesed, midat ha-chesed overech derech kol ha-masachim kedei litkabel beofen raoui. Donc la sphère de chesed, qui est la première donc des sept midot, va pénétrer toutes les autres midot. Ça veut dire qu'il n'y a aucune mida qui va arrêter la puissance du chesed. Le chesed traverse tout. L'amour gagne tout. Il n'y a rien qui peut arrêter l'amour d'Akadosh Baruch Hu de circuler dans ce monde. Donc la sphira qui représente cet amour, même quand on va lui mettre une sphira en face du chesed, qui va être la Gvura, ici, eh bien, ça ne va pas arrêter le chesed. Quelle est la preuve ? Eh bien, c'est qu'il y a une autre sphira après. Ça veut dire que le chesed a traversé la Gvura et est devenu Tiferet. Et il va continuer son cheminement, il va devenir Netzach. Et il va continuer, il va devenir Hod. Il va continuer, il va devenir Yesod. Il va continuer et remplir la Malchut. Vous comprenez bien que si une sphira annulait l'autre, on aurait été à zéro. Toutes les sphirotes se seraient arrêtées là. On est d'accord? Donc, le chesed, même s'il a en face de lui la gvoura n'éteint pas le chesed. Elle va juste lui donner des mesures, mais c'est le chesed qui va gagner. Ok? Je continue. David, si tu vois des questions, pose-les-moi au fur et à mesure, comme ça je peux avancer.
Alors, les élèves suivent pour l'instant. Hein. Bon, à la fin, on posera des questions. Hein.
Magnifique, c'est bien. Ça veut dire que tout est clair et je suis content. Donc, le chesed, c'est le début des sept sphères inférieures, et donc ça va arriver jusqu'en bas. Midat ha-chesed overet derech kol ha-masachim kedei litkabel be'ofen ra'oui. Donc c'est le chesed qui finalement gagne, c'est l'amour qui va gagner. À la fin des temps, c'est l'amour qui gagne. Rien ne pourra arrêter l'amour de Dieu, parce qu'en réalité, Dieu revient dans sa création. Et donc cette démarche de retour de Dieu dans son propre univers, qu'il a lui-même créé, ça s'appelle le chesed. C'est un élan divin. Et donc, s'il n'y avait pas ce chesed, le monde n'aurait pas pu exister. Donc, « ki en ha'olam mitkayem berov chesed levado ». Le problème, c'est que le monde ne peut pas exister avec le chesed tout seul. Pourquoi ? Parce que c'est un élan d'amour tellement grand que le monde aurait explosé de trop d'amour. Alors, Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il nous aime, il nous dit « je ne vais pas te tuer, je ne vais pas t'étouffer tellement je t'aime ». Et vous savez que c'est facile d'étouffer quelqu'un quand on l'aime. On peut l'étouffer. Il y a des gens qui étouffent quelqu'un d'autre en lui disant « mais je t'aime ». Donc je ne veux pas que tu sortes, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça, parce que je t'aime, je veux te protéger, je veux te garder, donc tu vas devenir prisonnier de moi-même. Chas v'chalila. Donc, danger. L'amour est bon quand il laisse à l'autre la liberté de le recevoir. Donc il faut mettre des gants quand tu aimes. Aime avec des gants. Aime avec des limites. Aime en laissant libre choix à celui que tu aimes de recevoir ton amour. Ne l'étouffe pas. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne. Donc, Sfirat Amalchut mekabelet mi Sfirat Hayesod et kol ma sheitpashet mi lemala veinyana lemamesh befoal et hanagat ha'elyonim ba'olam hazeh. Ok ? Donc, le chesed, finalement, il veut arriver jusqu'à la dernière sphère, la malchut. Et le chesed, je vous rappelle, il ne fait que traduire ce qu'il y avait dans les pensées supérieures qu'on a appelées mochim. Donc, lorsque le chesed met en marche, lui, il a une seule idée, c'est d'arriver en bas. Pour dévoiler, finalement, la dernière sphère. Mais, nous avons dit qu'il doit passer par des écrans. Donc, le chesed, on va le mettre de côté. La dernière, on va la mettre de côté. Donc, il va y avoir maintenant 1, 2, 3, 4, 5 sphirotes à traverser. Donc, le chesed va utiliser 5 filtres pour arriver finalement à la malchut. Vous êtes avec moi ? Les 5 filtres, c'est la Gevura, la Tiferet, le Netzach, le Hod et le Yesod. Donc finalement, nous avons 5 écrans que le Chesed devra utiliser pour arriver convenablement, sans trop de lumière, mais aussi, il ne faut pas que ce soit pas assez, juste la lumière voulue. Donc, il va traverser 5 écrans pour arriver à la malchoute. OK. Donc, face au chesed, je reviens maintenant dans mon schéma, il y a donc face au chesed la gvura. Vous vous rappelez que ça nous rappelle ce qu'il y avait face à la chokhma, la bina. Eh bien, un étage plus bas, face au chesed, il y a la gvura. Donc, on peut dire que le chesed, c'est le fils de la chokhma. Il joue le même rôle, un étage plus bas. Et que la Gevura, c'est la fille de la Bina. Elle joue le même rôle, un étage plus bas. Et que la Tiferet, entre le Chesed et la Gevura, il y a Tiferet en bas, eh bien, joue le même rôle que le Da'at, à un étage plus bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait ? J'ai pris l'étage d'en haut et je l'ai traduit dans un étage plus bas. Pourquoi ? Parce que le but, c'est justement que ces valeurs d'en haut arrivent finalement en bas. Donc je vais faire un jeu de lumière, un jeu de miroir comme dans les plans de Hilbert, comme un accordéon. Donc les degrés d'en haut vont se refléter dans les degrés inférieurs, qui vont se refléter dans le degré encore plus inférieur jusqu'au moment où ils vont aboutir dans notre monde. C'est clair ? Donc face à la Sphira de Chesed, j'ai la Gevura. Qu'est-ce que c'est la Gevura ? La mise en limite. Ezeu Gibor à Kovesh. J'arrive à contenir. Kovesh, c'est contenir. Ce n'est pas aller conquérir. Je conquiers en réalité la trop forte énergie du Chesed. Il y a une trop grande lumière, il faut que je lui donne des mesures. Ça, c'est la Gevura. Donc, je suis un Gibor. Quand tu as des élans dans ta vie, il faut savoir où et quand utiliser ces élans. Tu ne peux pas sortir dans la rue, avoir un élan d'amour et sauter sur tout ce qui bouge. Okay? Donc, il y a des limites, il y a des mesures. Tu as passé des écrans dans ta vie pour limiter ton amour d'une manière cohérente à ce que tu aimes vraiment et avec qui tu as construit un système dans lequel tu peux faire passer ton amour. Si tu as fait ce travail, tu as obtient la troisième sphère des Midot qui s'appelle la Tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre, donc la santé. Tiferet, c'est la racine du mot thérapie. Tiferet, c'est la racine du nom Rofé. Ani Adonai Rofécha, c'est la Tiferet. Donc, dans le mot Tiferet, tu as cette splendeur qui est ni plus ni moins que l'équilibre de l'être. Donc, voilà, je viens de créer un triangle. Et donc, j'ai créé encore un équilibre, un étage plus bas que l'équilibre premier que j'avais déjà en haut. Mais en haut, c'était encore que des pensées. Moi, je veux réaliser ces pensées. Donc, je descends. Vous êtes avec moi ? OK. Alors, je tire encore un trait assuré, pas pour séparer, mais pour différencier. Et j'arrive, encore une fois, à un triangle un petit peu plus bas. Et là, je vais avoir trois sphères, Netzach, Hod, et Yesod. Alors le Netzar, ça va jouer le même rôle que le Chesed, qui a joué le même rôle que la Chochma. Mais maintenant, un étage plus bas. Et le Hod va jouer le même rôle qu'a joué la Gvura et qu'a joué la Bina. Mais maintenant, deux étages plus bas. Et celle du milieu, la Yesod, va jouer le même rôle que la Tiferet, qui elle-même a déjà joué le même rôle que Da'at. Mais encore une fois, deux étages plus bas. Vous êtes avec moi ? OK. Donc nous avons Netzach. Comment est-ce qu'on va traduire Netzach ? Puisque nous nous rapprochons de la réalisation finale, eh bien Netzach, ça veut dire que je transforme toutes ces idées en éternité. Je veux que ça reste. Donc, Ani rotze lehantziach en hébreu. Je veux faire exister ces forces ici en bas. L'amenatzer, ce n'est pas un chef d'orchestre seulement, c'est celui qui fait devenir réel et continuel les valeurs de l'esprit. Ça veut dire que tu as une idée dans les mondes plus hauts, on va aller juste dans le monde plus haut, la bonté. Tu as de la bonté en toi. Fais en sorte que cette bonté, elle devienne un élément existant toujours chez toi. Pas un jour t'es bon, un jour tu deviens je sais pas quoi. C'est ce qu'on appelle Netzach. Pour que ce Netzach soit là, tu peux l'amener n'importe comment dans ce monde. Alors les Chachamim me te disent non. Il faut qu'il passe par une force féminine qui est juste en face de lui. Rappelez-vous, la droite c'est masculin, la gauche féminin. Hod. Qu'est-ce que c'est Hod? Si déjà tu veux rendre éternelle la chose en question, fais-le d'une manière jolie, belle. Donne-lui une beauté. Si déjà tu fais la chose, fais-le bien. C'est dommage. Tu veux construire un mikvé, alors tu peux faire un trou et remplir de l'eau. Alors non, fais des douches à côté, chauffe l'eau pour que ce soit agréable, fais du carrelage, fais de la couleur, fais des rideaux, fais de beaux robinets. Ça, c'est le hod. C'est-à-dire que enjolive ce que tu fais dans ta vie. Tu veux enseigner? Eh bien, habille-toi bien. Ne te mets pas des tenues qui... Et quand on va te voir, on va te dire, mais attends, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Tu veux donner un cadeau à quelqu'un? Ne lui donne pas le cadeau comme ça. Mets-le dans un beau papier, avec une belle enveloppe, avec un bon nœud. Fais les choses belles. Ça, c'est la sphère de Hod. Donc, c'est la femelle de Netzach. Et finalement, si tu as ces deux-là, donc thèse, antithèse, il y a la synthèse, la troisième, qui s'appelle Yesod. Donc le Yesod, lui, c'est en réalité la dernière, avant-dernière Sphira. Et là, regardez, je fais exprès de assurer, mais de laisser ouvert. Pourquoi ? Parce que nous, ce que nous devons faire dans notre vie, c'est tout le temps avoir ces deux sphères ensemble. Le Yesod et la Malchut. C'est sur ça que nous disons les Shem Yichud, Utsha Berichu ou Shrinte. C'est ça que nous voulons faire relier. C'est la Kadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc le Yesod, c'est le fondement de tout. C'est lui qui doit donner tout le flux qu'il a reçu de tous les étages d'en haut, qui sont au-dessus de lui, à la dernière sphère, la Malchut. OK ? Maintenant, si je veux donner des noms d'êtres humains à toutes les sphirotes que je viens d'énumérer, eh bien voilà, nous avons Chesed Avraham Avinu, Yitzhak Gvura, Yaakov Tiferet, qui va devenir Israël, Moshe Rabbeinu Netzach, Aharon en face de lui, Hod, Yosef HaTzadik Yesod, David HaMelech Malchut. Je reprends: Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, David. On appelle ça les Shiva ou Shpizin dans la Souka. Donc, qu'est-ce que c'est que ces Shiva ou Shpizin? Je vous rappelle que ce sont les sept Midot. Ce sont les éléments qui arrivent à me traduire et à me filtrer et à limiter la grande lumière des Mochin. Chochma Bina et Da'at. Pour me les faire venir dans ma vie en bas. Donc je dois utiliser ces 7 degrés à chaque fois que je veux faire venir une idée qui est de l'ordre des 3 premières sphirotes. Vous voyez, c'est très simple. Et donc mon but, c'est toujours de faire en sorte que la dernière, l'avant-dernière sphira fasse descendre tout le flux qu'elle a reçu à la dernière sphira. Donc ici, à Yosef, rappelez-vous, il y a 3 semaines, dans la Torah, il y a marqué « Velo yachol Yosef leit apek al kol anitzavim alav ». Alors, dans le pshat, c'est que Yosef ne pouvait plus se contenir parce qu'il voulait se révéler. Mais en réalité, regardez, « Nitzavim alav », c'est ceux qui sont au-dessus de lui. Donc, il y a toutes ces sphirotes. Et Yosef ne peut plus contenir parce qu'il y a une grande lumière. Donc, il est oppressé pour faire passer, pour se dévoiler à Yehuda, qui représente la Malchut. C'est clair? OK. Alors, je descends maintenant, je suis dans la Malchut. La Malchut, elle a quelque chose d'extraordinaire. C'est que, bon, elle va recevoir toutes les lumières, mais c'est encore des sphirotes. Où est-ce que nous sommes, nous? Eh bien, juste en bas. Olam Hazé. Ah, ça, c'est autre chose. Vous voyez, on a le Olam Hazé qui est en bas. Ce n'est pas la Malchut. Donc, dans le Olam Hazeh, qu'est-ce qu'il y a ? Des êtres. Eh bien, ces êtres ne peuvent pas dévoiler ce qu'il y a dans la dernière sphira qu'on vient d'appeler la Malchut sans Bechira Hofshit. La Bechira Hofshit, c'est le moyen de recevoir ce qu'il y a dans la Malchut. Vous avez compris ? Quelle est cette règle ? Ça veut dire que, voilà, tout a été fait. Les sphirotes les plus élevées, qu'on appelle les mochin, ont donné aux sphirotes qu'on appelait les midot, et les midot a donné à la malchut. La malchut, elle est là, elle doit donner à Olam Hazeh, mais le Olam Hazeh ne peut pas recevoir s'il n'y a pas de libre arbitre pour recevoir. Donc, nous allons utiliser un verset qui est très clair. Umalchuto beratson kiblu alehem. Vous avez compris? La malchut, tu vas la recevoir si tu veux. Beratson kiblu lobekoach. Donc Dieu ne peut pas devenir le roi du monde si nous, on l'accepte pas en tant que tel. Donc, c'est nous qui couronnons Akadosh Baruch Hu, roi du monde. Quand est-ce qu'on le fait généralement? Rosh Hashanah. On lui dit Hamelech Akadosh. Ve'ata Timloch. Ki Amalchut Shelcha Hi. Et nous, on accepte ton royaume sur nous. Est-ce que c'est clair ce que je vous explique? Il y a des questions ?
Arav, il y a des questions dans le chat.
Alors, chat-moi.
Alors, j'ai ouvert les micros. Yaakov, tu veux commencer à poser ta question ?
Oui, et merci. Et Rav, c'est en fait deux questions qui sont liées. Et la première chose, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé, donc on a dit Chesed Din et Tiferet, et on avait dit que le Chesed, il ne peut pas être arrêté par le Din, etc. complètement.
Pas bloqué.
Et est-ce que, parce que je sais que même au final, j'ai envie de dire la Tiferet, en général, on ne dit pas toujours noter que la paix Chesed, qu'il y a même dans la Tiferet, au final, il y a Midat Tova Merouba, il y a toujours le Chesed qui est prépondérant, on va dire, sur le reste.
Mon cher Yaakov, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Si le Chesed gagne, il arrive à la Tiferet et il descend même plus bas, vers le Netzach. Ça prouve que dans chaque étage, le chesed, c'est celui qui reste en priorité, en majorité, c'est lui qui gagne. Olam chesed ibané, c'est pas que pour la sphira de chesed. C'est-à-dire que le chesed, il a beau traverser des sphirotes, il va toujours traverser, pénétrer et traverser et sortir et continuer.
Ok, oui. Et par rapport à ça, est-ce qu'on peut pas dire, il me semble que j'ai cru comprendre chez Manitou qu'il disait que ce que vous avez parlé donc les fameux kavim, là, les petits pointillés qu'il y avait, que au niveau de l'histoire humaine, les trois sphères supérieures, c'était, je crois, c'était avant notre monde. Après, il y a les recettes d'in, etc. C'est les avot. Et ensuite, Moshe, ça, c'est vers Dormidbar, par autre terre. Et ma question, c'est que donc dans notre génération, vous avez dit tout à l'heure, donc on faisait Yesod et Malchut, ça. Vous avez dit.
Tout à fait. On est dans le sixième millénaire, donc dans la sixième séphira, et nous sommes proches de rentrer dans le Shabbat du temps. Donc le Yesod et la Malchut sont en train de se marier. Et c'est ça ce qu'on appelle la Geoula Shlema.
Ma question justement par rapport à ça, c'est qu'on a dit que chacun, donc il est parlé à un personnage de Tanakh, donc Yosef, c'est Yesod, etc. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, chronologiquement, on va dire comme ça, Yosef, il vient, en fait, il était avant Od avant Moshe, avant Aaron, avant Od Venetzar, etc.
Alors, je vais te donner un secret, c'est une très bonne question, c'est que tout simplement, ce qui apparaît après était déjà pensé avant, mais il ne pouvait pas apparaître avant, il fallait lui donner les Kelim pour apparaître. Alors, même si dans la Kabbalah, on met le Yesod Yosef après Moshe et Aaron, en réalité, C'est dans l'essence. Yosef, c'est la profondeur de Moshe Aaron, mais elle ne pouvait pas se dévoiler sans l'apparition avant de Moshe et de Aaron. Ce qui considère, on veut dire en réalité, ce consiste à dire que toutes les sphirotes du milieu, elles sont supérieures aux sphirotes de droite et de gauche.
Oui.
D'accord ? Même chez Yaakov, on l'appelle Bechir Sheba'avot. Donc il est le choisi de tous les pères. Et pourtant, Abraham et Yitzhak, ils étaient avant lui. Oui, mais parce que Dieu pensait à Yaakov. Donc, il a apparu après. Mais quand il a pensé à Yaakov, il pensait à Yosef. Et les toldot Yaakov, Yosef. Et donc, à chaque fois, on prépare et on dévoile le troisième élément qui, dans la pensée, était bien avant.
Sauf Maaseh b'machashavah.
Magnifique.
Question de Simcha Maïssa Lévi. Simcha, vous voulez poser votre question ?
Oui, bonjour. Je voulais simplement savoir si le fait d'embellir, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on arrive à une sphira où on doit embellir, est-ce que c'est une fonction de l'art ?
Oui, c'est l'une des fonctions de l'art, c'est de faire les choses belles. Et c'est pour ça que c'est du côté gauche des sphirotes, parce que la beauté doit être en réalité un degré qui va donner en fait finalement quelque chose qui est à voir, quelque chose qui est à sentir, quelque chose qui apparaît. Donc l'apparition des choses, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé un monde qui est magnifique, qui est beau même à voir, il aurait pu se dire « bon, il suffit que ce soit vrai, on s'en fiche que ce soit beau ». Eh bien non. Quand tu dis « emet ve'yatsiv ve'nachon », alors au début c'est « emet ». Veyatsi, venachon, vekayen, veyachar, venaman, datatatatata, vetov, veyafé. À la fin, c'est aussi beau. Donc, tu dois être beau. Tu dois faire les choses pour être belle. C'est très important, même pour une femme, de prendre cette sphira pour toujours garder sa beauté. C'est très important. Ou elle garde sa beauté, ou elle va saboter son corps.
Question de Dani Benzimra.
Yoël, bonjour. Est-ce qu'on peut dire que l'être humain, il reçoit tout de manière passive, mais dans sa phase, il est actif uniquement dans sa berira chofshit?
L'homme a tout en lui. Il a déjà tout en lui, effectivement, comme d'une manière passive, c'est-à-dire qu'il a reçu tout en cadeau. Sa seule béchira, c'est d'activer la chose en question. C'est tout.
Ça semble simple.
C'est très simple. Et en même temps, on se complique la vie. Asa Elohim et Adam yashar, vehem bikshu cheshbonot. En réalité, c'est très simple. On a déjà tout en nous. Vechaye olam nata betochenu. Alors, on te demande juste d'utiliser ce que tu as reçu comme cadeau. Et malheureusement, on n'arrive pas à le faire. Et on doit s'entraîner toute une vie entière pour réaliser le cadeau que j'ai déjà reçu gratuitement par Akadosh Baruch Hu.
Arav, question de Edouard.
Shalom Arav.
Shalom Edouard.
Une question par rapport au genre des sphirotes. Sphirotes masculines à droite, sphirotes féminines à gauche. Et les sphères du milieu, est-ce qu'elles sont masculine et féminine à la fois? Est-ce qu'il y en a qui sont masculines et d'autres qui sont féminines? Ou quel est le genre de celle du milieu?
Très, très, très bonne question. D'une manière générale, toutes les sphirotes du milieu sont centrales, donc équilibrées, mais elles sont avec une tendance qui est masculine. La preuve, c'est qu'il y a une suite, comme j'ai dit tout à l'heure à Yaakov. Et donc, il y a une domination masculine. Sinon, l'étage se serait arrêté à la sphira en question. Étant donné qu'il y a une suite, qu'il y a encore une sphira plus bas, ça sous-entend que la sphira, donc le côté don, donc le côté masculin, est toujours supérieur. Le'olam yagbir adam yamin al semol. Toujours il faut que la droite domine la gauche. C'est pour ça qu'on attache notre gauche tous les matins, nous les hommes.
Donc, il faut toujours qu'il y ait un genre. Un genre parvé, ça n'existe pas. C'est ça que
exactement. Ça n'existe pas un genre parvé, ça n'existe pas. C'est parvé, c'est pas vrai.
Question de Zachary. L'armée.
Bonjour, Rav. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu la sphère de Yesod? Qu'est-ce qu'elle véhicule? Comment ça se manifeste? Je suis pas sûr d'avoir bien...
Alors, la sphère de Yesod, c'est tout simplement le contenant final de toutes les sphérotes qu'il y avait avant. Donc, en réalité, c'est le porteur du Keter, j'allais dire. Il n'y a pas plus puissant que le Yesod, mais en même temps, c'est comme la Shalpuchit HaShetem. Je ne sais pas comment on dit en français.
La vessie.
La vessie, voilà. Donc, cette vessie, elle est très, très sensible. Eh bien, elle a toujours, toujours besoin de faire descendre. Parce que sinon, il y a une pression dessus. Donc, Yosef HaTzadik, il est comme cette vessie qui est remplie et qui a besoin de partager, de donner. Et donc, cette séphira qui correspond à Yosef HaTzadik, c'est l'ensemble de toutes les séphirotes. Et le but, c'est de faire passer tout ça à la malchoute, à la malchoute, donc à sa femelle. Vous voyez que le Yesod est central. Donc, elle est où, sa femelle? Eh bien, c'est la séphira d'en bas, la malchoute. Donc, le Yesod et la malchoute forment un couple, le dernier couple, en fait.
C'est aussi comme le Tiferet, une forme d'équilibre, mais là, un équilibre pas seulement du Chesed de Gavura, mais de l'ensemble des Sphirotes.
Exactement. C'est pour ça qu'il est au centre même de tout. C'est pour ça que Yosef, dans ses rêves, il s'est rêvé au centre, et toutes les Sephirot, tous les frères étaient autour. C'est l'axe central de tout.
Alors, question de Rabbin Messan.
Oui, Rabbin Messan, Shalom Ouvraha.
Shalom Ouvraha, Rabbin. Et merci pour l'éclaircissement sur les séphirotes, mais j'ai du mal à comprendre comment le Da'at est plus fort que le, par exemple, Chachouma et Bina, sachant que le Da'at est composé de Hamisha Hasidim et Hamisha Gevrot, qui va descendre dans les séphirotes.
Il y a les Hamisha Hasidim.
Qui va faire le tiers. Et on nous dit que le un tiers n'est pas dévoilé. Et après, c'est le deux tiers. Donc, moi, je crois que ça va des décrescendo. Ça se diminue, quoi, en fait. Non?
En réalité, ce que vous dites est vrai au niveau de ce qui est présenté. C'est-à-dire que ce que vient de dire le rabbin Messan, c'est que le Da'at, il contient les cinq élans qui donnent, ce qu'on appelle des Hamisha Chassadim, qui sont de la Chokhma, et les cinq gvurot qui sont de la Bina. Mais quand il va se dévoiler, il n'y a que deux tiers. Il y a un tiers qui sera caché, deux tiers dévoilés. Donc apparemment, ça diminue.
C'est ça.
En réalité, le fait de diminuer et de faire passer la lumière, ça, c'est considéré comme être grand.
Ah, d'accord. Ce
n'est pas être au haut niveau. Ça veut dire que je peux étudier la Torah à un très très haut niveau, mais je n'arrive pas à faire passer cette étude. Alors je suis grand dans mon étude, mais je ne suis pas grand parce que je n'arrive pas à être porteur du message en bas, donc ce n'est pas une grandeur.
S'il y a une minute, je peux encore poser une question.
Alors, juste, il y a beaucoup beaucoup de questions. Monsieur Messan, dès qu'on finit, vous reprenez. Question de Nili. Nili, vous posez une question ? Nili, homéopathie. Votre micro est éteint.
Bonjour.
Shalom.
Shalom. Shalom. Et vous avez parlé du libre arbitre et de Malchuto Beratzon Kiblou Alehem. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Kafa Alehem Har Kegigit?
Eh bien, ce n'est pas un libre arbitre. C'est pour ça que le Matan Torah s'appelle Matan Torah et non pas Kabbalat Torah. Et quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Seulement 1000 années plus tard, dans l'histoire de Purim. Kimu ve Kiblu Alehem. Et les Chachamim nous disent dans la Gemara, Kiblu ma shenitan lahem shama bekor. Donc, Matan Torah, ce n'est pas un idéal. L'idéal, c'est Kabbalat Torah. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, jamais on dit « Zman Kabbalat Toratenu ». On dit « Zman Matan Toratenu ». Et il a fait « Hu noten aval ha'im anachnu kibalnu ». Ou « Malchuto beratzon kiblu ». Ça, c'est le ratzon. Mais pourquoi on appelle ça « Har Kegigit », c'est-à-dire qu'on nous a forcés? Eh bien, c'est la réponse à Dani de tout à l'heure. Dieu a déjà tout mis à l'intérieur de nous. C'est ça, Har Kegigit. C'est-à-dire, quand tu es né, Nili, tu avais déjà reçu toute la Torah. Alors, il est où ton libre arbitre? Tu ne l'as pas. Alors, on n'a pas le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est seulement d'appuyer sur le bouton pour activer ce que j'ai déjà reçu, Bekor.
Il est fait. Toda.
Question de M. Ben Saïd.
Oui, bonjour Rav, merci.
Bonjour.
Une première remarque, j'ai l'impression que la succession des sphirodes ressemble à une succession de diaphragmes.
Tout à fait, c'est exactement.
Dans la mesure où justement ils sont réglables et qu'ils peuvent s'ajuster à la dimension du Kelly que nous sommes, que je pense nous sommes.
Exactement.
Alors par contre, il y a quelque chose qui me gêne, j'ai du mal entendre, mal comprendre, il serait temps, c'est que la position de Yosef est un peu gênante parce que Yosef, c'est quand même quelque part une impasse dans la Géoula terminale, puisque Yosef, c'est normalement l'ancêtre du Messie des nations, c'est-à-dire celui qui peut passer au-delà du Messie d'Israël. Et comment se fait-il qu'il garde cette position très centrale dans la succession dont vous parlez?
Alors, Mashiach ben Yosef, on l'appelle. C'est celui qui va être capable, en fait, de générer la Torah d'Israël au sein même des nations du monde. C'est-à-dire, c'est un langage universel. C'est pour ça que Yosef ressemble à quelqu'un, si tu le regardes de l'extérieur, il ne paraît pas être quelqu'un d'Israël. C'est quelqu'un qui a toutes les couleurs. C'est pour ça que son papa lui a fabriqué un vêtement avec des rayures. Et les Chachamim nous disent pourquoi les autres n'avaient qu'une seule rayure, qu'une seule couleur. Oui, lui a toutes les couleurs de l'univers. C'est-à-dire, c'est une Torah universelle. Et c'est cette Torah universelle qui sera l'aboutissement du Mashiach ben David, c'est-à-dire la Torah qui est spécifique à Israël. C'est quand Israël comprendra que la Torah qu'il a reçue n'est pas pour lui, mais pour les nations du monde, qui va devenir porteur par le Mashiach ben David. Donc, il n'est pas quelqu'un qui bloque la Géoula, mais effectivement, il place Israël dans une position qui l'oblige à s'ouvrir aux nations du monde.
Donc, on retrouve un petit peu la succession des sphirotes dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est supérieure, qui est plus intense, mais qui doit passer par un diaphragme qui serait...
Exactement, exactement.
Alors, est-ce que, excusez-moi de revenir là-dessus, est-ce que dans la paracha que nous venons de lire, quand Yaakov va voir Yosef pour lui dire « je ne veux pas être enterré ici », est-ce que ça ne veut pas dire « attention, c'est pas ici qu'il faut être » ?
Tout à fait, tout à fait, vous avez très bien compris le sujet. Yaakov, au départ, a suivi, entre guillemets, le système de Yosef, qui, lui, au départ, pensait, lui aussi, qu'on aurait pu faire tout ça à l'extérieur, puisqu'il faut être la lumière des nations. On va le faire depuis les nations. Eh bien, Yaakov remet l'ordre en place, il lui dit non. Et Yosef, qui va comprendre, lui aussi, avant de mourir, va dire à ses frères, « Je me suis trompé, c'est pas... » Parmi les nations que je vais diffuser la lumière, c'est à partir de la terre d'Israël, qui mitzion tetzé Torah ou dvar Adonai Mirushalayim. Donc le sionisme, au départ c'était Sion, c'est Yosef en valeur numérique, c'était une méconnaissance des choses, comme si Israël devait être éparpillé parmi les nations pour donner la voix de la Torah. Non. Israël doit revenir sur sa terre. Et c'est depuis cette terre qu'il va donner la lumière de Yosef.
Merci.
Rav, question de Yehudit, Rachel.
Bonjour, Rav.
Yehudit, Rachel.
C'est moi. vu que la malchoute féminine, c'est une sphira féminine, vous nous avez expliqué. Alors, pourquoi est-elle représentée par David? Parce que moi, je pensais qu'elle était représentée par Rachel.
David, c'est en réalité la descendance de Rachel Imenu. C'est comme Rachel. C'est-à-dire qu'au niveau des rois, quand on parle de Malchut, qu'est-ce que c'est qu'un roi, en fait? C'est très important parce que votre question m'oblige à expliquer la notion de royaume. Le royaume d'Israël sur terre, ce n'est pas un roi qui domine la nation, c'est le reflet du royaume du ciel sur la terre. Donc, il est obligé d'avoir une force féminine très forte, c'est-à-dire une force de réception, de perception de Dieu, du royaume de Dieu sur terre. Donc, par conséquence, d'un côté, il est roi d'Israël, mais lui-même, il est réceptacle, donc il est dans la malchut, dans un degré féminin très, très puissant.
Merci, merci.
Rabbin Messon, vous avez une autre question? Votre micro.
Oui, bien qu'à chaque fois, c'est vrai que vous n'en avez pas parlé, mais j'ai quelque chose que j'étudie et qui me travaille, que je vous ai posé la dernière fois, sachant qu'à partir d'Adam Kadmon, il y a la réception par les cheveux, qui est à Koudim, après il va descendre.
Non, je vous arrête.
Oui.
C'est pas par les cheveux, c'est par les yeux.
Il y a les cheveux après les yeux, non?
Non, les cheveux ne viennent pas en compte tellement c'est élevé.
D'accord.
Donc, tout commence par ce qu'on appelle les orot achap. Achap, c'est ozen chotem epé.
D'accord.
Les oreilles, les narines et la bouche. Les cheveux, c'est un autre degré. On en parlera dans un autre cours, mais c'est des lumières tellement hautes qu'elles ne sont pas prises en compte pour l'instant.
Merci. Bon, maintenant, on nous dit que ce qui sort de sa bouche, c'est un keli avec 10 lumières en même temps.
Tout à fait.
Et après, ça va passer à Nekudim, où chaque keli a sa propre lumière.
Tout à fait.
Et à Broudim, où ils seront en interaction.
Tout à fait.
Et on dit, c'est Yaakov Avinu.
Tout à fait.
Alors, Keneged Yaakov Avinu. Bon, vous nous avez enseigné que le fondement, c'est quoi? C'est que Maase Avot, Sima Lebanim.
Tout à fait.
Donc, c'est qu'on parle de nous. Comment aujourd'hui on pourrait l'appliquer à nous, c'est-à-dire la Koudim, le Nekudim et le Broudim?
D'abord, vous me prouvez chaque cours que vous étudiez profondément. Et je suis très, très, très fier de votre étude. C'est très, très, très à votre... vraiment, bravo. Vous avez une étude assez profonde et Baruch Hashem, vous touchez des éléments très profonds. Les trois éléments de Akudim, Nekudim et Broudim, ça veut dire que nous venons d'un degré qui englobe tout, c'est-à-dire un degré unitaire, qui sort de la source même de la bouche divine. Quand il est descendu, il est devenu Nekudim, c'est-à-dire une explosion en point. Et notre tikkun, notre réparation, c'est de faire les Broudim, c'est-à-dire Olam Ha'atzilut, c'est là où commence le monde du tikkun. Comment ça se traduit dans notre vie? C'est que nous devons commencer à nous aimer les uns et les autres et comprendre qu'on fait partie d'un même organisme complet. Et tant que je continue à me voir comme un élément séparé de mon voisin, de mon ami, eh bien, je n'ai rien compris au programme. C'est ce qu'on appelle la achdout, c'est ce qu'on appelle le rassemblement, c'est ce qu'on appelle le respect de l'autre, avec la couleur qu'il a, avec la variance qu'il a, avec la différence qu'il a, mais il me complète. Parce que je ne suis pas tout, et lui n'est pas tout, mais ensemble nous sommes dans le shalom. Et donc ça, c'est le dernier degré qu'on appelle Beroudim, ou bien qu'on appelle Olam HaTikun, qu'on appelle aussi Olam HaAtzilut.
Arav, il est midi 17. On a déjà dépassé un peu de temps. Est-ce que vous avez encore 2 minutes, Arav, pour deux dernières questions?
J'ai encore 2 minutes pour une question, il n'y a pas de souci.
2 questions, Arav. Rivka Khazan, vous avez une question?
Oui. Alors moi, j'ai compris que toutes les séphirotes, il faut qu'elles soient acceptées donc par le libre arbitre, si j'ai bien compris. Et comment vous comparez, enfin, quelle est la relation que vous mettez là, à ce niveau-là, entre la Emouna et le libre arbitre?
La Emouna, c'est tout simplement, vous avez peut-être une mauvaise traduction de la terminologie. C'est ce qui vous pousse à poser la question de cette manière-là. D'accord. Parce que quand vous traduisez Emouna, vous pensez que c'est la foi.
Alors confiance, confiance.
Exactement. Mais ce n'est pas la traduction en hébreu. C'est ni la confiance, ni la foi. La Emouna, c'est la mise en route, les amen, c'est la certification de la chose. Donc en réalité, ce n'est pas du tout croire en quelque chose, avoir confiance en quelque chose. C'est prendre cette chose-là et la faire véhiculer dans notre vie. Anima amin, c'est pas j'ai confiance que Dieu va m'envoyer le Mashiach. C'est moi, par mes actions, qui active le mouvement messianique. Ça, c'est la traduction du mot Emouna.
Donc il y a vraiment un parallèle entre libre arbitre et Emouna.
Exactement. Merci. Par mon libre arbitre, j'active toutes les forces qui m'ont été mises en moi pour leur donner vie.
Merci beaucoup. Oui, merci.
Merci à vous.